Le nouveau mois de Marie. 15e jour. Visitation de la Très Sainte Vierge. À quoi s'occupait la Très Sainte Vierge durant les 3 mois qu'elle passa auprès de sa pieuse parente? Nous pouvons dire, mon cher Théotime, que tous ces moments étaient partagés entre les œuvres de charité et l'exercice du divin amour. Tout le temps que n'absorbaient point ses tendres empressements auprès de Sainte Élisabeth était consacré à la prière. Son oraison était à peine interrompue par le sommeil léger auquel elle donnait quelques instants, et tandis que ses membres reposaient, son cœur ne cessait de veiller. Qui pourrait se représenter la ferveur de Marie? Combien vifs n'étaient pas ses soupirs pour son bien-aimé? Quelles saintes ardeurs dans ses entretiens avec lui! Tout l'aidait à s'élever vers l'objet de son amour. Elle le voyait en tout et partout. Chacune de ses actions, jusqu'aux plus indifférentes, était une élévation de son âme vers l'auteur de toutes choses, et par conséquent, une prière. Son cœur immaculé était comme cet autel d'or dont parle l'Apocalypse, où l'encens d'une adoration fervente brûlait continuellement en la présence du Sauveur. Ou plutôt, il était lui-même l'holocauste que ses propres ardeurs consumaient sans le détruire. C'est ainsi que Marie nous offrait en sa personne le plus parfait modèle des âmes toutes dévouées à la recherche de la perfection. Tiédeur. Méditation. 1. Marque de la tiédeur. Elles méritent toutes, mon cher Théotime, d'être pesées avec attention. Une âme tiède est celle qui ne craint que les péchés mortels, compte pour rien les fautes vénielles, celle qui s'acquitte des exercices de piété par routine, avec dégoût et nonchalance, qui prie sans attention, se confesse sans amélioration, communie sans dévotion et sans fruit. Celle dont les actions particulières se font sans ordre, sans être rapportées à Dieu, et nous la montre toute répandue en dehors, toujours loin d'elle-même, fuyant la présence de son Créateur et importunée de sa seule pensée. Celle d'une dévotion médiocre, qui laisse aux autres la gloire de monter plus haut, évite la compagnie des personnes ferventes, et se plaît parmi les âmes lâches, ennemie de toute contrainte, celle dont les efforts tendent à s'étourdir, à calmer les ferveurs d'une conscience justement agitée. Celle qui, tout en fréquentant la Sainte Table, conserve et nourrit intérieurement des aversions, des antipathies, des jalousies, de secrets désirs de vengeance, des attachements trop vifs et trop naturels, un esprit de critique et de raillerie. Celle que possède un amour-propre secret, lequel se glisse imperceptiblement dans toutes ses actions, est semblable à un ver rongeur, les pique dans leurs racines et leur ôte la vie. Celle, enfin, qui a en horreur le travail et la peine, et cherche en tout ses petites consolations, son repos, ses aises. À une seule de ces marques, nous pourrions connaître si nous sommes atteints de ce mal funeste, que serait-ce si nous les trouvions toutes réunies en nous? 2. Suite funeste de la tiédeur. Parce que vous êtes tiède, dit le Seigneur, je vais vous vomir de ma bouche. Qui a, te pudis es, incipiam te evomere ex or meo? Apocalypse, chapitre 3, verset 10. L'entends-tu, cette effrayante menace, âme infortunée? Dieu se prépare à te rejeter, et peut-être sans retour. Oui, celui qui est court au-devant des plus grands pécheurs, et qui reçoit l'enfant prodigue avec tendresse, celui-là même ne peut plus te supporter. Tu surcharges les entrailles de sa miséricorde. Tu fais bondir son cœur divin, comme fait en l'homme une eau tiède et insipide dont il cherche à se débarrasser. Bientôt, si tu ne changes, tu ressembleras à ces restes dégoûtants que la bouche rejette, et dont la seule vue, la pensée seule, est un objet de dégoût et d'horreur. Et tu ne trembles pas? Tu lis, tu écoutes même ces vérités si terribles avec ton indolence et ta langueur ordinaire. J'aimerais mieux, mon cher Théotime, un grand pécheur susceptible d'une forte impression, capable d'une résolution généreuse, que ces âmes plongées dans la léthargie de la tiédeur. Et c'est le vœu de l'Esprit Saint lui-même. Utinam, Frigidus, SS. Apocalypse, chapitre 3, verset 15. Plût à Dieu que tu fusses froid. Rien de plus difficile à guérir qu'une âme tiède. Pourquoi? Parce qu'elle ne se croit pas malade, l'aveuglement étant une suite de la tiédeur. Et cette âme se rassurant sur ce qu'elle s'acquitte toujours des mêmes exercices de piété. Pourquoi encore? Parce que les remèdes se changent pour elle en poison, ou au moins ne lui sont plus d'aucune utilité. Méditation, prière, confession, messe, communion, voilà ce qui guérit les autres, et c'est ce qui fait empirer son état. Pourquoi enfin? Parce que si Dieu, dans sa miséricorde, lui envoie quelques grâces extraordinaires pour l'aider à sortir de son funeste engourdissement, comme elle est accoutumée à les dissiper, à les perdre, il y a tout lieu de craindre qu'elle n'y fasse point attention et qu'elle ne laisse échapper toutes ses inspirations et ses secours salutaires. N'avez-vous pas vu, quelquefois, une personne attaquée d'un mal de poitrine qui la mine sourdement et la conduit insensiblement au tombeau? Elle ne sent pas la maladie proprement dite. Elle dépérit tous les jours et ne s'en aperçoit pas. Elle se lève comme les autres, s'assied à table comme les autres, tient sa place dans une compagnie, se montre encore dans les rues, dans les promenades, souvent, hélas, dans les parties de plaisir, dans les assemblées mondaines. Elle paraît être du nombre des vivants, et en effet, elle en est encore, mais ce ne sera point pour longtemps. Le tombeau se creuse peu à peu sous ses pas. Le jour même de sa mort, elle dort, boit, mange, parle à son ordinaire. Et tout à coup, sans qu'elle s'y attende, la mort frappe. Telle est l'image du chrétien tiède. On fait encore des prières, on se confesse, on partage les pieux exercices des âmes vivantes. Mais à force d'accumuler sans scrupule les infidélités volontaires, les péchés véniels réfléchis, on se familiarise, on s'apprivoise avec la tentation, avec l'offense de Dieu. On met le pied sur les limites du péché mortel. Et une dernière secousse suffit pour faire tomber dans l'abîme autour duquel on a marché si longtemps. Et ce péché qu'on vient de commettre, s'en est-on aperçu? Hélas, on le confond avec tant de péchés véniels qui l'ont précédé. On le range dans la même classe. On se tranquillise et on s'endort au fond du gouffre. Cette terrible maladie, me direz-vous, est-elle donc incurable? Non, mon cher Théotime, il n'y a point de maladie incurable pour un médecin tout-puissant. 3. Remède contre la tiédeur. Si vous êtes atteint de cette maladie si souvent mortelle, je ne vous dirai pas, considérez-en les suites funestes. Quoique sainte Thérèse n'eût pas commis le péché mortel, Dieu lui montra, dans une vision, la place qu'elle aurait occupée en enfer, si elle eût continué sa vie tiède et lâche. Je ne vous dirai pas non plus, pensez au grand maître que nous servons. Spiritu ferventes, domino servientes. Romains, chapitre 12, verset 13. Saint Ignace, voyant un frère travailler nonchalamment, lui demanda pour qui il travaillait. « Pour Dieu, répondit celui-ci. « Si vous m'eussiez répondu pour les hommes, reprit le saint, je vous excuserais, mais travailler pour Dieu avec tant de nonchalance, c'est se rendre inexcusable. Enfin, je ne vous dirai pas, pensez à la douce consolation qu'éprouve à la mort une âme qui a vécu dans la ferveur. On est bien payé alors de la violence que l'on s'est faite, et l'on s'écrie avec un saint religieux. Je ne me serais pas douté qu'il y eût tant de douceur à mourir. Nescibam tant suave esse mori. » Que vous dirais-je donc, mon cher Théotime ? Deux choses seulement. La première, de ne laisser passer aucun jour sans offrir à Dieu un petit sacrifice, un petit effort sur vous-même. La seconde, d'avoir recours à la prière, avec un soin nouveau, jusqu'à la fin de ce mois de bénédiction. Heureux celui qui ne se laissera pas s'écouler inutilement ses jours de salut et de grâce. Exemple. Le vénérable Thomas à Kempis, ce pieux auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, montra dès son enfance une dévotion toute particulière pour la Sainte Vierge. Il s'était imposé un tribut de prière qu'il lui payait exactement tous les jours. Néanmoins, il arriva que sa dévotion se refroidit insensiblement. Il négligea ses exercices accoutumés. Il les omit un jour, deux jours, une semaine entière, et bientôt il finit par les abandonner entièrement. Ce fut alors qu'un songe mystérieux lui fit sentir la grièveté de sa faute. Il lui semblait être dans la salle où l'on donnait les leçons, écoutant attentivement avec ses condisciples. Il crut alors voir la reine des cieux descendre sur des nuages, avec un visage rayonnant et des habits d'une blancheur éblouissante. Elle paraissait faire le tour de l'enceinte, s'arrêter auprès de chacun des religieux chargés de l'instruction de cette jeunesse, leur parler avec bonté et leur donner les plus douces marques de sa tendresse maternelle. À cette vue, Thomas attendait avec la plus vive impatience que la Sainte Vierge s'approchât de lui. Il jetait sur elle des regards où se peignait l'ardeur de ses désirs. Il se disait à lui-même « Je l'avoue, je suis indigne de ces témoignages d'affection de la Mère de Dieu. J'espère cependant, j'espère. » Il l'espérait, mais qu'il fut bien trompé dans son attente. Marie se présenta à lui. Elle sembla le fixer avec un œil sévère, et loin de lui donner des marques de tendresse, elle lui reprocha sa coupable négligence, sa sage docilité aux suggestions du démon. « Où sont, lui dit-elle, ces pieux exercices? Que sont devenues ces oraisons si ferventes, ces rosaires et ces offices récités avec une dévotion si tendre? Vous avez cependant la présomption d'attendre que je vous témoigne mon amour ?» Allez, allez loin de moi, puisque vous négligez d'offrir des exercices si faciles à celle que vous aimiez autrefois. Vous êtes indigne de ma tendresse. » À ces mots, le laissant consterné, elle disparut. Pour lui, il s'éveilla, sonda sa conscience, reconnut humblement sa faute et promit de s'en corriger. Il reprit ses pieuses pratiques avec tant de ferveur et de constance que jusqu'à la fin de sa vie, il n'osa jamais les omettre un seul jour. Ô heureuse réprimande ! Elle remit dans le bon chemin une âme qui commençait à s'en écarter et l'arrêta peut-être sur le bord du précipice. Autre exemple. Denis le Chartreux rapporte qu'une mère, voyant que son fils voulait entrer en religion, mit tout en œuvre pour le détourner de son pieux dessein. Le jeune homme, inébranlable dans sa résolution, opposé à tout ce qu'elle pouvait lui dire, ce peu de mots « Je veux sauver mon âme ». Sa mère, ne pouvant rien gagner sur lui, le laissa mettre de faire ce qui lui plaisait, et il prit l'habit religieux. Mais bientôt, sa ferveur se ralentit, il commença à vivre avec une telle nonchalance qu'on ne voyait en lui nulle marque de ce zèle ardent dont il avait paru brûlé pour les choses du ciel. Sa mère, cependant, vint à mourir, et lui-même tomba en même temps dans une dangereuse maladie. Ayant éprouvé un évanouissement, il fut transporté en esprit devant le tribunal de Dieu. Et là, il vit sa mère, qui, avec plusieurs autres, attendait la sentence de sa condamnation, tournant ses yeux vers lui. « Et quoi, mon fils, dit-elle, où sont ces paroles que vous me répétiez si souvent? Je veux sauver mon âme? N'est-ce donc que pour la perdre que vous êtes entré en religion ?» Le jeune homme, couvert de confusion, ne savait que répondre, Étant revenu de son évanouissement, et Dieu ayant permis qu'il échappât de cette maladie, il regarda cette vision comme un avertissement du ciel et changea entièrement de conduite. Sans cesse, il pleurait ses fautes et ne s'occupait qu'à les expier par les plus rigoureuses pratiques de la pénitence. Plusieurs personnes l'engageaient à se modérer, voulaient qu'il relâchât quelque chose de ses austérités, lui présentaient le tort qu'il faisait à sa santé. Mais loin d'écouter leurs conseils, « Si je n'ai pu, leur disait-il, soutenir les reproches de ma mère, comment soutiendrai-je ceux de Jésus-Christ au terrible jour du jugement ?» Pratique. Prenez pour votre première et plus chère dévotion la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Ces deux fournaises d'amour rallumeront et nourriront votre ferveur.
Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro/donation. Et si vous avez aimé cette lecture, soyez libre de vous abonner à la chaîne ou simplement de cliquer j'aime ou de la partager. Merci d'avance. Belle journée à vous. Et à bientôt.